We will no longer grant any exemptions. We're going to zero. We will continue to enforce sanctions and monitor compliance. Any entity interacting with Iran should err on the side of caution. The risks are simply not going to be worth the benefits.
Et la voilà, l'étincelle géopolitique qui risque de remettre le feu aux cours mondiaux du pétrole. Donald Trump, par la voix de son secrétaire d'État Mike Pompeo, supprime les dernières dérogations qui protégeaient les importateurs de pétrole iranien de sanctions américaines. Désormais, ce sera sanctions pour tout le monde, sanctions. Quel curieux paradoxe pour les chantres d'un libéralisme déréglementé de n'avoir que ce mot à la bouche alors que l'économie américaine se porte mieux que jamais. Pourquoi risquer de rendre le pétrole encore plus rare et donc encore plus cher? Avec ses 2,5 millions de barils par jour, l'Iran n'est certes pas au niveau de son rival saoudien, mais elle compte parmi ses clients certaines des économies les plus énergivores de la planète, à commencer par l'Inde et la Chine. Si vous ajoutez à cela les difficultés d'autres gros producteurs, le Venezuela paralysé, la Libye en plein chaos, il y a bien de quoi s'inquiéter d'une prochaine envolée des cours du brut. Tout le monde s'inquiète? Non, pas les États-Unis, justement, au pays du pétrole de schiste, on se frotte même les mains. Figurez-vous qu'on a des solutions à proposer aux importateurs qui devront renoncer au brut iranien. Tiens, tiens. Et en France? En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des gilets jaunes. Nouveau samedi de mobilisation aujourd'hui. Leur colère a justement éclaté à l'automne dernier à cause des carburants. C'est dire si la question des prix à la pompe dans les prochains mois devrait être suivie de près. Les prévisions jusqu'à présent plutôt optimistes du secteur pétrolier devront sans doute être réactualisées. On n'en a pas fini, loin de là, avec la question des mobilités et de leurs coûts.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine écho du samedi. Un grand merci en ce 27 avril à Coyenne Guyenne à la réalisation, Valentin Pérez à la préparation, sans oublier Julien Dumont en régie. Une émission à double détente aujourd'hui, la France puis l'Europe. Bonjour Sophie Fay.
Bonjour Fabien.
Grand reporter au service économie de l'Obs. Et bonjour Jean-Marc Daniel.
Bonjour.
Économiste, professeur à l'ESCP, directeur de la revue Sociétale. Vous étiez bien branché sur France Inter ou franceinter.fr pour écouter la conférence de presse d'Emmanuel Macron avant-hier?
J'y étais, j'ai écouté effectivement la conférence de presse du président.
Absolument, et ça a duré un certain temps.
Ça tombe bien, on va en y revenir. Impôts, retraite, travail et fonction publique. On revient avec vous sur les principales annonces et les non-annonces d'Emmanuel Macron en conclusion du grand débat. Vous le savez, c'est une semaine spéciale Europe sur France Inter qui continue ce samedi. L'Europe des industriels et celle des consommateurs au menu de votre Mag'Éco aujourd'hui. Nous nous intéresserons à Bayer-Monsanto, aux transporteurs routiers, au cartel des camions. Celle qui fait trembler tout ce que l'Europe compte de cartels et d'optimisateurs fiscaux sera notre invitée, la commissaire européenne à la concurrence, Margrethe Vestager, nous a reçus à Bruxelles. Entretien à suivre dans moins d'une demi-heure. En fin d'émission, la chronique Ma vie au boulot de Sandrine Foulon, aujourd'hui consacrée aux formations obligatoires dans les entreprises. Rendez-vous à 10h05. Voilà pour le menu. Place au débat.
25 avril 2019.
Et il me semble que la meilleure orientation pour répondre aux besoins de justice fiscale,
Emmanuel Macron,
n'est pas d'augmenter les impôts de tel ou tel, mais plutôt de baisser les impôts du maximum de nos concitoyens, en particulier de toutes celles et ceux qui travaillent au premier chef des classes moyennes. J'ai donc demandé au gouvernement de mettre en œuvre cette baisse d'impôts en la finançant par la suppression de certaines niches fiscales pour les entreprises, la nécessité de travailler davantage et des réductions de notre dépense publique.
Sur la question de la fiscalité, moi je dis attention.
Laurent Berger,
la baisse de la fiscalité,
secrétaire national de la CFDT,
qui sans doute réjouit les personnes qui vont en bénéficier, et je le comprends. Je crains que ça se fasse par une baisse drastique des dépenses publiques qui va être contradictoire avec une demande des citoyens de rapprochement des services publics.
Est-ce qu'il y a eu le rétablissement de l'ISF?
Daniel Obono.
Est-ce qu'il y a une augmentation du SMIC?
Député, la France insoumise.
C'est ça les véritables mesures qu'il faudrait si on voulait aider nos concitoyens et concitoyennes les plus modestes. Non, le président, au contraire, il souhaite accélérer le mouvement. Donc tout le reste, c'est franchement de l'enfumage.
Au 1er janvier prochain, je souhaite que nous réindexions les retraites de moins de 2000 euros et qu'il n'y ait plus de sous-indexation de quelque retraite que ce soit à partir de l'année 2021. Je veux que ce qu'on appelle le minimum contributif, c'est-à-dire la retraite minimale qu'on touche quand on a travaillé durant sa vie, ce soit de 1000 euros.
Il compense en 2020 et 2021, il annule ce qu'il a décidé.
Laurent Wauquiez.
ce qui est quand même pas très glorieux quand même.
Président des Républicains.
Mais surtout la réalité, c'est la hausse de la CSG que toute une partie des retraités vont continuer à payer. Ça veut dire que le président de la République en 2 ans aura pris 6 à 8 milliards d'euros sur le dos des retraités et qu'il ne leur rend pas cet argent.
Parce que l'objectif de réduire de 120 000 fonctionnaires est toujours d'actualité.
Écoutez, là-dessus, il faut qu'on soit réaliste. Et donc je demanderai d'ici à l'été au gouvernement de me donner son analyse, de voir si c'est tenable. J'assume totalement, si ce n'est pas tenable, d'abandonner cet objectif.
C'est un grand débat, paraît-il.
Olivier Faure.
Ce que nous constatons, ce sont de petites réponses.
Premier secrétaire du Parti Socialiste.
Qu'est-ce qu'on attendait de ce président de la République? C'est qu'après une crise sociale qui dure depuis près de 6 mois, il en attendait des réponses qui soient innovantes, qui donnent le sentiment que, effectivement, quelque chose avait changé. Mais où est-elle cette inflexion? Nulle part.
Et face au numérique, au changement climatique, à tout ce qu'on a commencé à faire, on a besoin de bâtir un pacte productif permettant de viser en 2025 le plein emploi. C'est à notre portée, complètement.
Sophie Fay, Jean-Marc Daniel, on va débattre de tout ce qu'on vient d'entendre, mais on va essayer de bien rubriquer les choses avec vous. Premier point, celui sur lequel Emmanuel Macron était le plus attendu, la fiscalité, 5 milliards d'euros de baisse de l'impôt sur le revenu fléché vers les classes moyennes. Le geste est-il à la hauteur des attentes, selon vous ?
Moi, je dirais qu'effectivement, il fallait répondre sur la fiscalité, parce qu'on assiste à une revendication, à une révolte, à un mouvement social qui est très axé sur la fiscalité. Autant il y a une vingtaine ou une cinquantaine d'années, comme en mai 68 ou en 95, les gens réclamaient plus de salaires et s'adressaient au patronat, autant là, le mouvement s'est adressé à l'État, au gouvernement, et en disant, on ne veut pas payer la taxe carbone, vous en parliez tout à l'heure, et on veut une fiscalité juste. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'une fiscalité juste? Alors, là où Emmanuel Macron a eu raison et a bien réagi, c'est qu'il a dit, de toute façon, je vais baisser les impôts. Sauf qu'il se heurte à ce qu'il appelle lui-même l'injonction paradoxale. Il dit, les gens veulent qu'on baisse les impôts, qu'on augmente les services publics, et donc, il dit, je sais pas très bien comment faire. Et ce paradoxe, on le retrouve dans son annonce, où il dit, je vais faire une baisse d'impôts, dont on sait pas très bien quel sera son contenu, mais il dit, je la financerai par la suppression des niches fiscales. Et supprimer des niches fiscales, c'est augmenter des impôts.
Alors, il y a aussi tout le débat sur le financement, effectivement, mais sur les baisses d'impôts, Sophie.
En fait, tout le monde devrait être content de cette annonce, puisque si vous regardez les programmes des candidats à la présidentielle, Nicolas Sarkozy proposait une baisse de 10% de l'impôt sur le revenu pour tout le monde. Donc, on était autour de 7 milliards d'euros. Donc là, on est à 5 milliards et on se concentre plutôt sur le bas du barème. Donc, voilà, ça satisfait une partie des revendications de Nicolas Sarkozy. Et François Hollande avait commencé à le faire. Vous savez, quand on a eu, quand Pierre Moscovici a eu cette phrase sur le ras-le-bol fiscal, quand ils ont compris que les Français en avaient assez qu'on monte les impôts de manière continue depuis la crise, eh bien là, on a commencé à baisser. Et François Hollande avait commencé à baisser de 6 milliards. Il avait également commandé un rapport à un député socialiste, Dominique Lefebvre, qui avait dit qu'il fallait aller plus loin et reprofiler le barème. Et c'est ce que, finalement, Emmanuel Macron termine, donc il devrait y avoir un consensus sur cette baisse.
Édouard Philippe avait parlé à son tour il y a quelques semaines d'exaspération fiscale. Effectivement, vous disiez aller plus loin. Ces 5 milliards s'ajoutent aux 32 milliards, si j'ai bien compté, qui sont déjà prévus sur l'ensemble du quinquennat, toute baisse d'impôts comprise. Fin de la taxe d'habitation, 7 milliards, transformation de l'ISF en impôt sur la fortune immobilière, 5 milliards. Justement, sur ce point, vous l'avez trouvé convaincant dans sa manière de ne pas se renier sur l'ISF ?
Ah oui, je crois que c'est un des éléments clés dans son discours, c'est-à-dire que, et dans son quinquennat, c'est-à-dire que s'il revient en arrière sur l'ISF, il sera, à mon avis, totalement décrédibilisé. Sa réélection, quelle que soit d'ailleurs la popularité du rétablissement de l'ISF, mais sa réélection à lui, en tant que personne qui passe son temps à revenir en arrière sur ce qu'il a dit, annoncé et voulu faire, et serait, à mon avis, dramatique et catastrophique. Ce qu'il y a d'intéressant dans ces baisses d'impôts, en plus, c'est qu'il avait essayé d'expliquer dans sa campagne présidentielle qu'il serait le président du travail. Ce que je dis, c'est il est devenu le président des riches, mais dans sa campagne, il se voulait le président des ruches, c'est-à-dire des gens qui travaillent. Or, il faut qu'il garde cette idée que l'ISF, c'est pas pour les riches, c'est pour l'économie globalement. C'est une dynamique de croissance économique. Et ce que je trouve un peu déroutant dans ce qu'il annonce, c'est qu'il concentre de nouveau la logique des baisses d'impôts sur le discours sur le pouvoir d'achat, sur les ménages, et très peu sur les entreprises. C'est-à-dire qu'un rapport récent de l'OCDE rappelait que les entreprises françaises ont 233 obligations fiscales. Alors, toutes ne paient pas 233 impôts, mais potentiellement, on peut leur réclamer de l'argent au titre de 233 obligations. Et c'est devenu tellement compliqué, d'ailleurs, qu'on a voté le droit à l'erreur, c'est-à-dire le droit pour les entreprises de ne pas comprendre ce qu'elles doivent. Et je pense que là, il aurait dû, en complément de ce qui est fait sur la taxe d'habitation, sur l'impôt sur le revenu, annoncer que les entreprises aussi, qui sont quand même les vecteurs de la croissance, seraient impactées, concernées par l'évolution de la fiscalité.
Alors justement, il est question de toucher aux niches fiscales, en particulier justement celle des entreprises, Sophie Fay.
Alors les entreprises, c'est déjà prévu qu'on baisse leur fiscalité, puisqu'il y a une baisse progressive de l'impôt sur les sociétés qui est prévue jusqu'à la fin du quinquennat. Ce qu'on a du mal à comprendre sur les entreprises, c'est qu'il avait promis une chose simple, qui était la lisibilité et des réformes en début de quinquennat, annoncées, claires, et ensuite on n'y touche plus pour que chacun sache sur quelle base il part et sur quelle base il investit. Et là, on recommence à rechercher des niches. Alors ce qui est bien avec les niches fiscales sur les entreprises, comme sur les ménages. D'ailleurs, sur les ménages, maintenant, on les connaît à peu près, mais sur les entreprises, on en découvre toujours des nouvelles.
Alors justement, mais de quoi on parle?
Donc
en fait
là, par exemple, il y en a une sur une défiscalisation du diesel pour les petites entreprises du
le
BTP.
Gazole non routier.
Donc celle-ci, pourquoi pas la revoir, en effet. Mais en même temps, les entreprises, elles se plaignent tout le temps de supporter trop d'impôts de production, donc ces impôts qui arrivent avant de faire du bénéfice. Et on leur dit, on va vous enlever des niches fiscales qui réduisent, qui permettent de réduire cet impôt sur le bénéfice, et on va vous supprimer cet impôt sur le bénéfice, alors qu'elles demandent la baisse des impôts de production. Donc, bon, on est encore dans le concours l'épine fiscale, ça va nous occuper jusqu'au budget, et on aurait pu s'en passer, quoi.
Oui, je conclue comme Sophie, c'est, on est dans le concours l'épine, là, c'est le bricolage, et au moins le concours l'épine, quelquefois, il y a des idées qui sont assez innovantes, là, c'est plutôt le concours l'épine des bricoleurs.
Hein. Mais il y a des gains à aller y chercher, quand même?
Je pense que le véritable enjeu maintenant, ça va être de clarifier véritablement la fiscalité, de dire qu'on va mettre à profit cette idée qu'il faut baisser les impôts pour la clarifier, que les grands axes sont annoncés, donc la taxe d'habitation, l'impôt sur le revenu, et puis se tourner vers cette fiscalité des entreprises. On ne voit pas, mais dans la loi de finances, par exemple, il y a 20 impôts qui ont disparu. Ces 20 impôts qui ont disparu, quand on regarde la liste de ces impôts, là c'est aussi le concours l'épine, c'est une liste invraisemblable. Moi qui suis girondin d'origine, j'ai regardé qu'on supprimait la taxe sur le sucre de chaptalisation. Et ça a été annoncé comme étant un geste vers le monde viticole.
Oui.
Oui, la chaptalisation, c'est mettre du sucre dans le jus de raisin pour modifier la teneur en alcool du vin. Mais ça fait très longtemps que plus personne ne chaptalise dans ce pays. Et donc, on est en train de courir après une fiscalité qui est devenue incompréhensible. Et je crois que non seulement on a besoin de la réduire, mais on a besoin effectivement de la clarifier et de la stabiliser. Et de dire aux gens, une bonne fois pour toutes, voilà ce que vous devez payer.
Alors, on en vient au deuxième gros morceau de ces annonces d'Emmanuel Macron, les retraites. Avec cette fusée à deux étages, la réindexation des pensions inférieures à 2000 euros, donc les plus modestes, sur l'inflation dès l'année prochaine, les autres en 2021, même question que sur les impôts, Sophie. Cette réponse vous semble-t-elle à la hauteur des attentes ?
Alors oui, c'est à la hauteur des attentes, mais c'est presque une non-annonce, puisque ça avait déjà été décidé. Il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel sur la loi de financement de la sécurité sociale qui prévoyait cette désindexation, et le Conseil constitutionnel avait dit vous pouvez le faire pour l'année sur laquelle vous votez cette loi, mais vous pouvez pas l'inscrire sur la au-delà de cela, et donc il faudra réindexer ou revoter une loi pour désindexer. Donc finalement, ce qu'il fait, c'est faire ce qui était déjà prévu. Donc est-ce que c'est très nouveau? Non, c'est pas très nouveau, mais au moins ça ramène le droit commun, puisque on avait déjà désindexé les retraites qui avant étaient indexées sur les salaires. Donc ça progressait beaucoup plus vite que les prix. Jacques Chirac avait décidé en 1987 de les indexer sur les prix, donc ce qui avait ralenti leur progression. Et puis, ça devait être une réforme durable. Et en 2014, François Hollande a commencé à les désindexer pour faire des économies. Et donc, c'est vrai que ce n'était pas très juste pour les retraités qui ont quand même le sentiment d'avoir cotisé et d'être dans un contrat sur leur retraite, de se trouver comme ça privé de pouvoir d'achat.
Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est effectivement, là aussi, on est dans le bricolage. On a quand même nommé un haut commissaire aux retraites. On a un gouvernement qui s'est affiché comme étant dans la volonté de régler une bonne fois pour toutes le problème des retraites. On a parlé de Jacques Chirac en 87. Vous avez après le célèbre formule de Rocard en 91. Il y a de quoi faire sauter une vingtaine de gouvernements sur la réforme des retraites. il y a l'esquive de Lionel Jospin avec le rapport Charpin. Donc, le dossier est véritablement maîtrisé, connu, ça fait 30 ans qu'on en parle. Et 30 ans qu'on nous dit, cette fois-ci, les régimes spéciaux ont disparu, puis pof, il y a de nouveau un problème de régimes spéciaux. Bon. Donc, on aurait pu penser qu'on sorte véritablement par le haut de ce problème des retraites, en disant, écoutez, comme le disait d'ailleurs Emmanuel Macron dans une de ses précédentes interventions, j'ai demandé un effort aux retraités, quand il était en face de Jean-Pierre Pernaut, il avait assez développé sa logique. Au travers de la CSG, j'ai demandé un effort pour permettre aux gens qui sont en situation délicate et les chômeurs de faire, et puis je vais aux chômeurs de trouver un emploi, et puis je vais résoudre durablement le problème de la retraite. Alors là, on a un aspect sur les retraites, on sait pas ce qui va ressortir des mesures de Delevoye, on sait pas comment
alors attendez, parce que justement, c'est une réforme, Jean-Paul Delevoye le dit, qui n'est pas censée être une réforme comptable. Pourtant, on a bien le sentiment que le chef de l'État compte dessus pour tirer quelques pistes de financement.
Absolument. Alors, on annonce des choses qui sont à la fois contradictoires, des menaces de démission, alors que c'est assez simple, et tous les deux rapports le disent, il y a un paramètre essentiel qui est l'âge de départ à la retraite.
Et il faut y toucher, selon vous ?
Ah, moi, il faut y toucher. Ce qui est un peu absurde, c'est qu'on l'a bloqué, y compris dans le programme du président de la République. Il n'y avait pas beaucoup de choses très précises et très détaillées dans son programme, mais il y avait l'idée qu'on maintenait les 62 ans. Alors, je pense qu'il faut le retarder, parce que dans toute la plupart des pays européens qui sont en situation comparable, on est plutôt aux alentours de 65 ou 67 ans.
Vous êtes d'accord avec Jean-Marc ?
Là-dessus, pas tout à fait. Il a fait une promesse de campagne. Il a fait une promesse de campagne qui était de s'en tenir à 62 ans, de ne pas retoucher l'âge de la retraite et de laisser Jean-Paul Delevoye travailler et travailler en confiance avec les syndicats pour réussir à trouver à faire une réforme de fond, une réforme vraiment novatrice. On sait ensuite que cette réforme, elle va provoquer un décalage de l'âge de départ à la retraite automatique puisque il a déjà commencé. Il faut cotiser 43 ans déjà. Donc si vous cotisez 43 ans compte tenu de l'âge auquel on entre en moyenne sur le marché du travail, ça repousse mécaniquement l'âge de la retraite. Ensuite, l'idée de la réforme de Jean-Paul Delevoye, c'était plutôt d'inciter les gens à travailler plus par des surcotes plutôt que de les pénaliser. Et ça fait quand même un peu plaisir. Moi, je crois que ce qui a manqué dans cette conférence de presse et ce dont les Français ont envie d'entendre parler, c'est de l'espoir, des choses où on ne vous contraint pas tout le temps, on ne vous retire pas des droits, mais on vous en rajoute. Et la crise, la récession de 2008, qui n'a pas été elle a maintenant plus de 10 ans, et on a envie d'en sortir et de parler de croissance, d'espoir, davantage de droits supplémentaires, et pas tout le temps de contraintes et de droits rétrécissants.
Alors, de l'espoir, l'emploi, objectif plein emploi en 2025. On y croit ?
Alors, écoutez, moi, je ne sais plus ce que c'est que le plein emploi. Vous avez des économistes comme Patrick Artus, par exemple, qui vous disent qu'on y est au plein emploi parce que quand vous regardez ce qui se passe sur le marché des cadres ou des diplômés, il y a déjà un taux de chômage qui est très bas. En revanche, vous avez un taux de chômage qui est très élevé sur les gens qui ont peu de diplômes, peu de formations, qui sont éloignés du marché de l'emploi depuis longtemps. Et eux, on ne sait pas comment les remettre. C'est pas une question de plein emploi ou de pas de plein emploi. On ne sait pas comment les rapprocher du marché du travail. Donc, qu'est-ce que c'est que le plein emploi ? Est-ce que c'est à 8%, 7%, 4% ? Je ne sais plus aujourd'hui.
Alors, répondez, Jean-Marc Daniel.
Non, c'est absolument impossible, à mon avis, pour deux raisons. La première raison, c'est comme le vient de dire Sophie, c'est-à-dire que vous avez deux blocs de chômage. Vous avez un chômage qui est le chômage conjoncturel, qui est lié au cycle économique. Et ce chômage-là, donc, il est assez facile à mesurer, mais vous avez un chômage qui est un chômage durable, chômage structurel, qui est lié donc effectivement au niveau de formation, aux règles d'ailleurs d'indemnisation du chômage. Or ce chômage-là, il est pratiquement autour de 8,5-9%, c'est ce que dit Patrick Artus. C'est-à-dire que il y aura un chômage conjoncturel, et puis le chômage structurel qui ne peut être résorbé que par des mesures de long terme que l'on aurait dû prendre depuis très longtemps, lui, il est désormais aux alentours de 8,5-9%. Donc on ne descendra probablement pas en dessous de 8,5-9%. Quant au chômage cyclique conjoncturel, ça dépendra de l'évolution de la conjoncture économique. Or, on est plutôt, compte tenu de l'histoire récente, on est plutôt dans des menaces sur la croissance économique, et il devrait s'accroître. Alors, c'est un grand débat. Est-ce que ce qui s'est passé à la fin de l'année dernière, début d'année, était un trou d'air, et est-ce qu'on est en train d'en sortir ? Donc, les chiffres de la croissance américaine sont particulièrement, sont particulièrement intéressants et particulièrement enthousiasmants, mais fondamentalement, est-ce que c'est durable ?
Alors, on va rester sur ce sujet du travail et des salaires. Justement, il n'y a pas eu grand-chose à part la reconduction de cette prime de fin d'année défiscalisée. Hein. Est-ce que l'État est dans son rôle en renvoyant comme ça le sujet aux entreprises ?
Ah mais sur les salaires, je pense effectivement que l'État est dans son rôle. Il détermine le salaire minimum. Je crois qu'un des enjeux sur l'organisation des salaires, c'est le travailler plus pour gagner plus. La semaine dernière est sorti le rapport du Conseil national de la productivité qui explique bien que... Alors il dit c'est une énigme. On ne sait pas pourquoi la productivité augmente aussi peu alors qu'on n'arrête pas de parler d'innovation, de disruption, de sociétés qui se réforment en profondeur. Mais la productivité augmente peu. Or, la production, la croissance, le niveau de richesse d'un pays, c'est la productivité. L'efficacité du capital et l'utilisation de ce capital, c'est-à-dire la durée du temps de travail. Et donc je crois qu'un des enjeux maintenant pour l'État, c'est dans le domaine de la gestion des entreprises, de la vie quotidienne du travail, c'est de poser la question de savoir faut-il augmenter la durée du temps de travail avec le fait que ce problème est mal posé à l'heure actuelle, parce qu'on dit si on augmente la durée du temps de travail, ce sera pour l'État pour qu'il puisse payer une partie de la sécurité sociale.
En réalité, moi j'ai l'impression que c'est un faux débat, parce que quand on regarde les gens qui travaillent en France, ils travaillent déjà beaucoup. Ils travaillent autant, voire plus que nos voisins allemands ou que nos voisins britanniques. En revanche, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Et quand on regarde le problème des petites retraites, hein, il a aussi annoncé, Emmanuel Macron, qu'il allait revaloriser les petites retraites pour les gens qui ont travaillé toute leur vie. En fait, ce qu'il faut pas, c'est travailler plus. Ce qu'il faut, c'est travailler mieux. On se rend compte que les travailleurs français sont beaucoup moins formés. Ceux qui sont diplômés ont beaucoup de formation, mais ceux qui ne sont pas diplômés ont peu de formation. Donc toute leur vie, ils restent au SMIC, ils n'augmentent pas en qualification, et après, ils se retrouvent à la retraite avec des petites retraites. Pourquoi on ne peut pas travailler mieux plutôt que travailler plus, c'est-à-dire faire travailler plus de monde, qualifier mieux les gens qui travaillent? On a la chance d'avoir à Paris une institution qui s'appelle l'OCDE, on a l'UNESCO, et l'OCDE n'arrête pas de dire qu'il faut augmenter la qualification des employés français. Donc faisons cela.
Ce sera la conclusion de notre débat. Merci à vous deux, Sophie Fay, Jean-Marc Daniel. Merci d'avoir été avec nous ce samedi matin. On ouvre à présent notre page européenne dans On n'arrête pas l'écho. Nous sommes toujours, vous le savez, dans le cadre d'une semaine spéciale Europe sur France Inter. Vous avez pu entendre tout au long de la semaine des reportages, les dossiers de la rédaction à retrouver d'ailleurs sur franceinter.fr. Aujourd'hui, votre magazine écho s'intéresse à l'Europe des industriels face à celle des consommateurs. Direction tout d'abord l'Allemagne où se tenait hier l'Assemblée Générale particulièrement houleuse du géant de la chimie Bayer Monsanto.
Der Aktienkurs hat massiv an Wert verloren, vor allem weil Bayer mit vielen Milliarden Monsanto gekauft hat. Das Unternehmen, gegen das in den USA über 10.000 Krebspatienten wegen des Unkrautvernichters Glyphosat klagen.
Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Fabien, bonjour à toutes et tous.
Vous êtes le correspondant permanent de France Inter en Allemagne. Un cours d'action qui dégringole en bourse, des ennuis judiciaires qui s'accumulent à cause du Roundup. C'est dire si le champion allemand et européen de la chimie et de la pharmacie Bayer est dans la tourmente depuis son rachat de l'américain Monsanto. Que reprochent les actionnaires aux dirigeants de Bayer d'avoir vendu leur âme au diable en quelque sorte?
Oui, le diable d'une certaine façon, c'est vrai, parce que l'image de Monsanto était déjà mauvaise, et ça les dirigeants de Bayer en avaient bien conscience au moment du rachat. L'autre question que soulèvent les actionnaires, les dirigeants ont-ils bien mesuré les risques juridiques encourus par cette fusion? Il y a plus de 13 000 actions intentées aux États-Unis contre ce produit phare, l'un des produits phares de Monsanto, cet herbicide à base de glyphosate. Alors les propriétaires du titre Bayer ont surtout perdu de l'argent, beaucoup d'argent, environ 40 milliards d'euros, sa valeur est tombée à 51 milliards d'euros, soit moins que ce qu'a coûté le rachat de Monsanto. Lors de cette assemblée générale d'hier, les actionnaires ont pris la parole. Bayer, en deux ans, est passé du statut de géant pharmaceutique à celui de nain, a dit l'un d'eux, et pas n'importe lequel, il est actionnaire majoritaire. Ça résume l'état d'esprit des investisseurs en général, parce que jamais un patron allemand n'avait mis autant d'argent pour racheter une entreprise étrangère. On parle donc du rachat le plus coûteux de l'histoire allemande. Mais on est en train de parler surtout peut-être du rachat le plus dangereux de l'histoire allemande. Ce dont s'est encore défendu Werner Baumann, le PDG de Bayer, nous en sommes toujours fermement convaincus, a-t-il dit, les opportunités et les risques ont été soigneusement pesés.
Et il y a un émoi particulier en Allemagne qui dépasse le strict cadre des actionnaires?
Oui, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit que Bayer représente en Allemagne une entreprise tout de même fondée en 1863, une histoire longue qui n'est pas sans tâche, certes, mais le groupe reste connu auprès de monsieur, madame, tout le monde, comme ici celui qui a inventé l'aspirine. On parle d'un des 30 groupes cotés au DAX à Francfort. Jamais une entreprise n'avait perdu autant de valeur et même de réputation en aussi peu de temps. Ça passe donc mal dans l'opinion publique allemande. Et puis ses emplois, 12 000 emplois soit supprimée dans le monde, mais 4500 ici en Allemagne, ce sont donc des familles, leurs proches, leurs amis qui pâtissent les premiers de ce rachat.
Merci à vous Ludovic Piétenu, correspondant permanent de France Inter en Allemagne. Merci d'avoir été avec nous depuis Berlin. L'Europe des industriels est-elle compatible avec celle des consommateurs? Oui, affirme la commissaire européenne à la concurrence Margrethe Vestager. C'est une voix qui compte de plus en plus en Europe. Certains lui prédisent même un avenir de présidente de la Commission européenne. Elle nous a reçus à Bruxelles. Entretien à suivre dans quelques minutes. Mais d'abord, illustration d'un dossier sur lequel justement la commissaire Vestager a eu à travailler, le cartel des camions. Pendant 14 ans, les fabricants de camions se sont entendus pour gonfler les prix de vente de leurs poids lourds aux transporteurs routiers.
Jean-Christophe Limousin, délégué régional de la FNTR Pays de la Loire.
Pourquoi est-ce que le cartel des camions est un sujet aussi sensible à évoquer avec les transporteurs ?
C'est compliqué parce qu'aujourd'hui le dossier n'est pas arrivé à son terme. Peut-être que un transporteur a des relations régulières avec ses concessionnaires, donc nécessairement elles ont besoin de relations de confiance avec leurs vendeurs.
Je vais penser en tant que consommateur là, mais pendant 14 ans, les 6 plus gros constructeurs ont gonflé les prix d'environ 10%. Est-ce que les transporteurs ont répercuté ces coûts-là ?
Nécessairement, puisque les coûts de transport sont plus élevés sur les postes du matériel et puis du gasoil, donc nécessairement ça se répercute sur les prix de transport. Et donc nécessairement en bout de chaîne, c'est bien sur les consommateurs que l'incidence a été transmise.
MAN, Volvo, Renault, Daimler, Iveco, DAF et Scania, ils sont 6 à s'être entendus pendant 14 ans pour retarder l'introduction de nouvelles technologies anti-pollution, puis pour en faire payer le coût à leurs clients transporteurs. L'accusation vient de la Commission européenne. Il y a 3 ans, Bruxelles a infligé à ce cartel une amende record de 3 milliards 800 millions d'euros. Camion, l'entente toxique, c'est un reportage de Fabien Randrianarisoa.
Bonjour Laurent Guélante.
Bonjour Fabien.
Vous travaillez pour le cabinet Hossfeld.
Nous représentons les victimes de cartels ou d'abus de position dominante et leur permettons d'obtenir une indemnisation juste, équitable, de la part des fournisseurs qui les ont, on va dire, truandés entre guillemets.
Comment est-ce que cela a été possible sans que les transporteurs ne s'en aperçoivent avant ?
En face des transporteurs, vous aviez 6 géants, 6 mastodontes, des camions, des groupes qui font des dizaines de milliards, voire plus, de chiffres d'affaires par an, des marges bénéficiaires de plusieurs milliards par an, voire parfois au-delà de la dizaine de milliards par an. Et donc le rapport de force, forcément, était biaisé. Alors il y avait des rumeurs, il y avait des doutes, il y avait des soupçons, mais jamais les transporteurs n'ont pu penser que leurs principaux partenaires dans leurs activités, dans leurs affaires, pouvaient les avoir truandés. Maintenant, nous avons constaté une évolution importante au cours de ces 24 derniers mois. Des transporteurs au départ très frileux, lorsqu'ils se sont rendus compte des enjeux, lorsqu'ils se sont rendus compte que la grande majorité de leurs concurrents agissaient, ont décidé d'agir. Pour vous donner un exemple, j'étais chez un transporteur hollandais il y a 3 mois, lors d'une réunion avec ses équipes. Il disait à ses équipes, écoutez, le dommage que nous avons subi est supérieur aux 10 dernières années de bénéfices que nous avons fait.
À ce point-là. On parle du prix d'achat des camions, mais aussi de normes environnementales qui auraient été retardées. Cela aussi, c'est évalué dans le préjudice ?
Bien sûr. Le budget moyen d'essence, de diesel, par camion, budget annuel, est de l'ordre de 30 000 euros. Donc le fait d'avoir eu accès plus tard, suite à une concertation entre constructeurs, à un camion plus performant, constitue un préjudice majeur. Imaginez que vous avez accès avec un an de retard à un camion qui consomme 5% moins de carburant. Le préjudice sur un an est de l'ordre de 1500 euros par camion.
Donc quels sont les enjeux maintenant de pouvoir intenter des actions en justice ?
De très nombreuses actions ont été intentées. Maintenant, le vrai sujet, c'est défendre correctement les intérêts des transporteurs. On est sur des dossiers techniques, complexes, à composantes économiques très sophistiquées. Et on a en face de nous, je dirais, les écuries de Formule 1, les meilleures écuries de Formule 1 de la Défense, hein, les avocats des constructeurs. Chaque constructeur a recruté les meilleurs avocats, les meilleurs économistes.
Pour éviter les sanctions financières, le constructeur allemand MAN a dénoncé ses partenaires du cartel des camions en 2011. La Commission européenne pointait déjà dans une étude une hausse anormale des émissions de CO2 des camions de 36% entre 1990 et 2010. C'est à partir de ce moment-là que l'enquête s'est accélérée. Steph Cornelis suit ce dossier pour l'ONG Transport et Environnement.
Les conséquences environnementales sont évidemment très importantes. Les normes européennes Euro sur la pollution sont vraiment efficaces pour réduire les émissions d'oxyde d'azote des camions. Donc plus nous tardons à déployer ces technologies sur le marché, plus l'impact sur le climat et l'environnement est négatif. Et puis une plus grande quantité d'émissions d'oxyde d'azote qui s'échappent dans l'air, ce n'est pas seulement mauvais pour l'environnement, c'est aussi très mauvais pour la santé. Donc on peut dire que le cartel des camions n'a pas seulement lésé ses clients, mais aussi tous les citoyens européens.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il serait encore possible que les constructeurs s'entendent pour retarder des normes environnementales sur le marché ?
La semaine dernière, le Parlement européen est tombé d'accord pour la première fois de son histoire pour fixer des standards sur la pollution des camions. Cela veut dire que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de régulation sur les émissions de CO2 et la consommation en carburant des camions. Et dorénavant, cela va changer. D'ici 2025, les émissions de CO2 devront être réduites de 15%. Et en 2030, elles devront être plus basses de 30%. Et c'est réellement un grand pas en avant.
Camion, l'entente toxique, c'était un reportage de Fabien Randrianarisoa.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10. On n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Le cartel des camions, un sujet que connaît par cœur notre invitée du jour, la commissaire européenne Margrethe Vestager. Elle plaide pour une Europe qui réconcilie la vision des industriels et celle des consommateurs. Elle nous a accordé cette semaine un entretien à Bruxelles. Bonjour Margrethe Vestager.
Bonjour.
Vous êtes commissaire européenne à la concurrence, ancienne ministre danoise de l'économie mais aussi de l'éducation. Merci de nous accorder cet entretien.
Non, pas du tout.
Nous sommes ici dans les locaux de la Commission européenne, si près de Paris et si loin des préoccupations immédiates des Français. C'est ce que croient de nombreux électeurs, en tout cas qui s'apprêtent une nouvelle fois à exprimer leur défiance vis-à-vis des institutions européennes. Qu'avez-vous envie de leur dire à ces électeurs qui ne veulent plus de l'Union européenne?
C'est très difficile d'avoir un échange qui ait un sens, parce que l'un comme l'autre, il faut que l'on fasse un pas pour comprendre d'où vient justement l'autre. Moi, par exemple, je viens d'une nation forte, petite mais forte, c'est en tout cas notre sentiment, et pour autant, nous voyons qu'il est nécessaire de faire les choses ensemble pour lutter contre le changement climatique, contre l'immigration illégale, pour être en mesure de lutter contre le cybercrime ou la guerre hybride. Donc c'est difficile pour moi de me mettre dans la peau de quelqu'un qui va dire « Moi, je ne veux pas de tout cela ». Bien sûr, je comprends que la démocratie européenne est perçue comme distante. C'est sa nature qui le veut. Elle n'est pas présente dans chaque pays directement. Mais en même temps, je sais que j'ai des représentants élus au Parlement européen, je les connais. Ce sont des gens qui ont fait campagne dans mon pays. Ils sont d'ailleurs sur place, sur le terrain une fois par mois. Ils sont à la rencontre des électeurs. Je connais mon commissaire national, les autres commissaires. Donc, j'ai toujours le sentiment qu'il y a un lien entre la démocratie nationale et la démocratie européenne.
Justement, votre mandat de commissaire européenne à la concurrence se termine dans quelques semaines. Quel bilan en tirez-vous ?
Pour moi, le plus important, c'est, j'allais dire, maintenir, mais même accélérer la cadence pour ce qui est de garantir les droits du consommateur qui doit être bien servi par le marché, surtout en ce qui concerne le digital qui est partout et qui est là de plus en plus et de plus en plus vite partout. Je pense qu'il faut davantage de protection de l'individu pour ce qui est en tout cas
tout cas de ces données personnelles, il faut que nous ayons davantage de pouvoir, que nous soyons bien ceux qui maîtrisent le système, et il faut veiller aussi à ce que les petites et moyennes entreprises aient une vraie chance de présenter leur marché sur le marché. Alors certes, il faut de grandes entreprises, on en a besoin, mais pas seulement de celles-là, parce que la résilience européenne, elle tient notamment au fait que nous avons beaucoup de petites entreprises, chacune ayant son expertise dans son domaine.
Il y a justement un sujet sur lequel le gouvernement français a récemment protesté contre votre décision, celui de la fusion entre les groupes Alstom et Siemens, que vous avez refusé. Une erreur, estime le gouvernement français, une occasion ratée face à la concurrence chinoise de faire émerger un champion européen. Il se trompe, selon vous ?
Mais on a des champions européens. We have amazing European companies.
Nous avons vraiment des entreprises hors du commun, superbes. Il y a Siemens, il y a Alstom. Mais nous, nous allons de l'avant et nous pensons à l'avenir. Et nous nous disons, mais est-ce que ces entreprises sont menacées ou limitées dans leur action par le concurrent chinois? Or, au moment où je vous parle, il n'y a pas de train à grande vitesse d'origine chinoise qui roule ailleurs qu'en Chine et qui fonctionne ailleurs qu'en Chine. Ce qui veut dire que ces deux entreprises, elles peuvent se lancer sur le marché mondial ensemble ou chacune de son côté, tout en étant confrontées à la concurrence en Europe dont nous avons besoin. Nous, nous devons pouvoir continuer à acheter des trains à grande vitesse en Europe. On doit pouvoir également modifier notre système de signalisation pour garantir la sécurité des voyages en train, mais aussi de manière à avoir une bonne régularité des trains, surtout sur le trafic transfrontalier. Et ça, c'est la concurrence qui peut nous le donner. Donc pour moi, si vous voulez, il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être bien servi à des prix tout à fait abordables sur un marché concurrentiel, tout en ayant une présence au niveau mondial.
Le rôle de l'Union européenne, c'est d'aider les entreprises à devenir de véritables champions de taille mondiale aussi.
In the sense of creating an environment.
S'il s'agit effectivement de mettre en place un environnement propice à la croissance, oui. Vous voyez, par exemple, le capital humain, l'éducation, les qualifications, la recherche, les perspectives, le fait de pouvoir répondre aux besoins là où le marché, par exemple, va être défaillant. Et le fait, par exemple, actuellement, qu'on mette en place une alliance actuellement pour fabriquer des piles et des batteries. Car on n'a pas ça en Europe pour l'instant. Il faut créer l'environnement pour le permettre, mais il faut quand même que les entreprises aient cet esprit de compétition, de concurrence pour pouvoir être le meilleur. Sinon, il y a le risque qu'il y ait des choix politiques qui soient faits de certaines entreprises et on peut se tromper, on peut miser sur l'entreprise qui n'est pas forcément la bonne pour l'avenir. Donc oui, nous pouvons, si vous voulez, créer tout le cadre qui est nécessaire à l'entreprise, mettre en place une équité qui va faire que toutes les entreprises paient leurs impôts et pas simplement certaines entreprises, car ça fait partie effectivement de l'égalité des chances.
Donc selon vous, c'est possible de concilier l'Europe des industriels et l'Europe des consommateurs?
Ça, c'est un must absolu, selon moi. Et parfois, j'ai le sentiment qu'en Europe, nous sommes en train de faire des choix fondamentaux actuellement. Il y a cette tendance où certains disent « Oui, il faut penser avant tout à la technologie, quitte à laisser un petit peu de côté tous les aspects humains. » Moi, je ne pense pas que c'est cela que nous voulons. Nous voulons bien sûr que le marché soit au service du consommateur. Nous voulons que la société soit là pour ses citoyens. Ce sont des choix fondamentaux. Parce qu'on voit bien que dans d'autres parties du monde, il y a d'autres choix qui sont faits.
Soutenez-vous la volonté portée par la France de taxer les GAFA, ces champions américains du numérique, Google, Apple, Facebook et Amazon?
C'est une très bonne idée.
C'est absolument nécessaire. Je continue d'espérer qu'on pourra trouver une solution au niveau mondial, mais pour autant, je pense qu'il faut passer par une solution européenne. C'est-à-dire que les Européens vont devoir aller plus loin en disant « voilà ce que nous voulons », car il est tout simplement injuste à données comparables. Vous savez qu'une société digitale va payer environ 9% d'impôts et la société conventionnelle, l'autre entreprise, elle paie 23% d'impôts.
faire.
Ça n'est tout simplement pas juste. Donc je comprends pleinement la décision française d'aller de l'avant sur ce dossier et j'espère que ce choix français va nous amener à avoir une solution européenne puis mondiale.
Vous avez vous-même infligé de lourdes amendes à ces sociétés, plus de 4 milliards d'euros contre Google en juillet dernier. Un redressement fiscal contre Apple en Irlande pour un montant record de 13 milliards d'euros, c'était en août 2016. Ces sanctions changent-elles vraiment le cours des choses? Rendent-elles ces géants américains plus vertueux?
Pas seulement. Il faut faire beaucoup.
Parce que bien sûr, ce n'est pas la sanction individuelle qui fait quelque chose, c'est le système qui doit être refondu complètement. Mais je crois que, si vous voulez, il y a eu un certain nombre d'affaires, notamment des affaires très extrêmes, des cas d'évasion fiscale, où on a trouvé qu'il y avait effectivement des actions qui ont été prises de manière illégale pour avantager certaines entreprises au détriment d'autres entreprises. Et ça, si vous voulez, s'inscrit dans un changement également de la culture nationale. La législation change en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas, à Malte, à Chypre. Et ça, c'est quelque chose qui entraîne également une évolution de la législation européenne. Évidemment, maintenant, ce qui est important, c'est que ceci s'inscrive dans le concret. Moi, je n'ai aucune illusion. On ne change pas les choses en changeant la loi. On les change et on change la réalité en mettant en œuvre cette législation pour que les entreprises paient effectivement leurs impôts.
Une enquête est en cours contre Amazon. Pouvez-vous nous en dire plus, au moins sur les motifs de l'enquête et le calendrier?
Nous avons commencé à poser un grand nombre de questions. Amazon se trouve être à la fois une plateforme qui héberge des petites entreprises, mais c'est aussi leur concurrent. Or, Amazon a toutes ces données qui concernent les petites entreprises qu'elles hébergent et on veut savoir si ces données sont utilisées de manière équitable et juste ou si on utilise ces informations pour faire concurrence à ces petites entreprises. Et ce qui est intéressant et satisfaisant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous aident, qui vont prendre sur leur temps pour donner leur avis, des informations. Et nous avons donc beaucoup de données à analyser. C'est en cours, c'est assez avancé d'ailleurs. Je pense qu'assez rapidement et prochainement, on va pouvoir dire dans quelle direction on va évoluer.
Quand ?
C'est difficile de dire,
parce que on n'a pas les résultats définitifs, évidemment, mais probablement avant l'été.
Vous considérez-vous comme une guerrière, Margrethe Vestager? Are you a Danish Valkyrie?
Non, pas du tout. I think it comes with the job. But the job
si vous voulez, ça fait partie de cette mission qui a été la mienne jusqu'à présent. Il s'agit, quand on occupe ma position, d'être le dépositaire du mandat de 500 millions de personnes. Et lorsque je me retrouve face à un PDG un peu impressionnant, avec une méga fusion de milliards et milliards d'euros, à ce moment-là, je pense à ces 500 millions de citoyens. Et là, à ce moment-là, je me dis, on est sur un pied d'égalité autour de cette table.
Un mot pour terminer sur les élections européennes qui se tiendront dans un mois. Les Britanniques vont donc devoir voter alors qu'ils quitteront l'Union européenne dans les prochains mois. N'est-ce pas absurde?
Pour moi, de toute façon, tout ce processus dans son ensemble, c'est vraiment, on marche sur la tête. On voit tous les ennuis, et j'en pointe un faible mot, les ennuis qui vont être liés au départ des Britanniques s'ils partent en ordre dispersé, et en même temps, les difficultés au sein du Parlement britannique, qui a du mal à échanger au sein même du Parlement sur la manière de sortir, comment envisager cette situation qui est peut-être le plus grand défi de ces 70 dernières années.
Et je
suis d'accord avec vous. Participer à des élections alors qu'on est sur le point de partir, c'est un petit peu étrange à première vue, mais en même temps, lorsque l'on est ressortissant d'un pays de l'Union européenne, on a le droit de vote. Et,
precious,
et ben, le droit de vote, il est précieux.
Most fundamental building
c'est
block
vraiment
in any
la pierre angulaire, un point fondamental de toute démocratie. Voilà pourquoi j'espère que beaucoup de gens dans les autres pays européens vont user de ce droit, l'utiliser pour être représentés au Parlement européen.
Votre nom a souvent été cité en France parmi ceux qui pourraient succéder peut-être à Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne. Vous êtes candidate ?
We made the choice in my political family.
Nous avons fait un choix au sein de ma famille politique. Nous avons décidé de mettre en place une équipe, cinq femmes, deux hommes, pour réfléchir ensemble sur les dossiers que sont la migration, la sécurité, la fiscalité. Nous pensons que ce sont des dossiers plus importants que qui va être où à Bruxelles. Une fois passées les élections, on verra qui occupe quel poste à Bruxelles, mais en tout cas, les élections sont pour montrer la direction vers laquelle nous allons nous engager.
Merci beaucoup, Margaret Vestager. Merci d'avoir été notre invitée dans N'arrête pas l'écho.
Merci, merci beaucoup.
Et bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Fabien.
Une question de Nadine ce matin. Quelles sont les formations obligatoires qu'une entreprise doit mettre en œuvre ? Faut-il par exemple qu'elle forme ses salariés aux risques liés au télétravail ?
Dans les formations obligatoires, Nadine, il y a d'abord toutes celles qui relèvent de dispositifs légaux et réglementaires. Par exemple, si vous êtes chauffeur routier ou agent immobilier, vous devez suivre des formations particulières. Un salarié qui manipule des chariots élévateurs doit être formé au CACES, le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Tout ce qui touche à la sécurité et à l'hygiène est obligatoire. Une entreprise doit former les employés à réagir en cas d'incendie. Il est aussi indispensable d'avoir un sauveteur secouriste du travail pour 20 salariés. Et puis, il y a toutes les formations qui concernent l'adaptation au poste de travail et le maintien des salariés à occuper un emploi. Après, Nadine, il n'existe pas de liste exhaustive de formations obligatoires. Une direction n'est pas obligée de former ses salariés aux risques psychosociaux liés au télétravail. Mais elle a intérêt à le faire car elle doit s'assurer que le télétravailleur dispose de bonnes conditions pour exercer son activité, qu'il ne souffre pas d'isolement et de stress. Quoi qu'il arrive, l'employeur a une obligation de résultat. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale des salariés.
Est-ce que les salariés peuvent refuser une formation ?
En principe, non. Si l'entreprise a mis en place une formation sur le temps de travail, financée dans le cadre du plan de développement des compétences, on ne dit plus plan de formation, eh bien la refuser vous expose à une sanction, voire à un licenciement. En revanche, l'entreprise ne peut pas vous imposer une formation si elle se déroule en dehors du temps de travail. Il a besoin de votre accord. Il ne peut pas non plus vous contraindre à faire un bilan de compétences. Et bien sûr, aucune obligation de suivre le séminaire ouvert, la sortie en canyoning, ni la nuit dans la yourte, tout ça ne fait pas partie de l'exécution du contrat de travail. Mais il est très possible que votre entreprise, Nadine, vous propose des formations dites non obligatoires. Par exemple, prise de parole en public. Car la loi oblige les employeurs à faire un bilan tous les 6 ans de votre évolution professionnelle. Pendant cette période, ils doivent s'assurer que vous avez suivi au moins une formation sans lien direct avec votre poste et vérifier que vous avez bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. À défaut, l'entreprise risque une pénalité de 3 000 euros par collaborateur. On verra l'an prochain ou mieux si cet aiguillon est efficace.
Sandrine Foulon, Ma vie au boulot, merci beaucoup. C'est la fin de votre Mag'Écho. On n'arrête pas l'écho. Reviens samedi prochain à 9h10 avec aux commandes l'excellent Yves Decaen.
Alors la cuisine ok, le lave-vaisselle ok, le four ok, plus que le frigo et on est bon.
Attends, je vérifie. 30, 40, 80 centimes, 1 euro. Parfait, allons choisir le modèle.
Mais t'es sûr qu'on a assez ?
Eh oui, pas besoin de plus. En ce moment chez Ikea, le troisième électroménager est à 1 euro pour tout achat d'une cuisine en magasin de 1500 euros minimum hors électroménager. Alors profitez-en grâce à votre carte gratuite Ikea Family.
Ikea.
Offre selon les stocks disponibles, voire conditions détaillées sur Ikea.fr.
Après le journal, on aura tout vu, l'émission cinéma de Christine Masson et Laurent Delmas. Il est 10h sur France Inter.